Bonjour, Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Aujourd'hui, nous revenons sur l'événement de ce début du mois de mai, la confirmation des adultes. C'était samedi 4 mai à la cathédrale Saint-Castor à Nîmes, où vous avez confirmé plus de 90 adultes, dont 52 nouveaux baptisés. Cela doit être une grande joie pour vous.
Ben oui, c'est une joie pour l'évêque que je suis, pour les prêtres, pour toute l'église du diocèse de Nîmes, évidemment. Parce que ces confirmants adultes, alors donc 52 ont été baptisés dans la nuit de Pâques, et puis il y a tous ceux qui ont demandé la confirmation parce qu'ils n'avaient pas été confirmés étant jeunes, et donc ça dit un dynamisme de la foi. Et du coup, ce dynamisme, il rejaillit sur nous, parce qu'on voit des hommes et des femmes qui, à 30 ans, à 40 ans, ou à 25 ans, ou à 50 ans, disent « en fait, j'ai une foi dans le Seigneur, je veux même mettre ma confiance en Dieu, je me lève pour Jésus, si je puis dire, et ça c'est très beau, et puis j'ai envie de vivre l'Évangile dans ma vie et être disciple du Christ ».
Alors, les futurs confirmants vous écrivent pour vous partager leur chemin de foi, vous exprimer leur désir d'être confirmés. Est-ce qu'il y a des témoignages, justement, qui vous ont particulièrement touché, émerveillé, étonné, peut-être surpris ?
Oui, alors d'abord, parmi ces personnes qui se présentent à la confirmation, il y a celles qui ont découvert le Christ et même découvert Dieu, qui était athée, qui était très loin de Dieu, qui ne savait pas mettre des mots, même sur la foi, sur la vie de foi. Et puis il y a des gens qui retournent à Dieu, c'est-à-dire ils ont été baptisés enfants, ils ont été catéchisés, et puis ils avaient abandonné. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont fait une croissance dans la foi, mais ils n'ont pas été, si vous voulez, entourés par une famille qui était pratiquante ou qui était croyante. Parfois, il y avait des familles anticléricales. Et donc, ce qui est très beau, c'est une relation avec Dieu qui naît, quelque chose d'extrêmement personnel. Alors ça peut être à partir d'une épreuve, ça peut être à partir aussi d'une naissance d'un enfant, ça peut être à partir d'une maladie, d'un deuil, ou bien un mariage, ou bien tout simplement le chemin de foi d'un enfant. Par exemple, l'enfant a fait sa première communion, ou l'enfant a été baptisé, et les parents s'interrogent. Et donc, il y a comme de multiples portes d'entrée, mais ce qui est commun à tous, c'est une relation avec le Seigneur, une relation avec le Christ, et puis cet accueil, et puis ce consentement à ce que la relation change quelque chose dans la vie. C'est-à-dire, il faut que cette relation au Christ, elle devienne publique par le sacrement, et puis ça a bougé des choses, ça a transformé mon existence. Alors du coup, on a, oui, des témoignages, parce que c'est en France qu'on a pris l'habitude de demander à ceux qui veulent demander la confirmation d'écrire à l'évêque. Alors que ça soit des jeunes, ou bien que ça soit des adultes. Et je dois dire que c'est une de mes grandes joies chaque année.
C'est une sorte de lettre de motivation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça permet aux personnes de s'arrêter, de mettre des mots sur l'expérience intérieure qu'ils ont faite, de se confier aussi à l'évêque, du coup de synthétiser une expérience de foi qui a parfois lieu sur plusieurs années. Alors moi j'en ai relevé quelques-unes. Par exemple, l'un ou l'une des confirmants dit « Pour moi, la religion est un repère, un refuge, un guide dans ma vie. C'est une fierté pour moi d'avoir un Dieu qui, je sais, veille sur moi, ma famille, le monde, et qui me guide tous les jours de ma vie. Il ne m'a jamais abandonné, même dans les moments où j'ai douté de lui. » Alors ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une conscience de la présence de Dieu depuis longtemps, qui parfois, sans pouvoir le nommer, s'est dit « au fait, il y a un Dieu qui existe, qui est là, qui est présent, et qui s'est occupé de moi. » Alors, il y en a un ou une qui écrit aussi. Ce sont des témoignages que j'ai cités pendant l'homélie de la confirmation. Mmh. Voilà ce qu'il écrit. « Le fait d'être vraiment revenu dans la religion chrétienne catholique a tellement apaisé mon cœur que je me sens beaucoup plus heureuse et épanouie dans ma vie. J'ai enfin accepté notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, et c'est la plus belle décision de ma vie. Aujourd'hui, je ne me vois plus me passer un seul instant de lui. J'ai une soif immense d'apprendre de la Bible et de vivre de plus en plus selon sa volonté. » Là aussi, on sent il y a certainement eu dans l'enfance une formation catéchétique, un baptême, mais il y a un moment où là, vous voyez, on passe d'une religion, qui a été transmise dans la famille, qui est peut-être une religion plus moralisante, plus d'idées, à une rencontre avec le Christ.
C'est ça.
Parce qu'au fond, la vie chrétienne, c'est d'abord une rencontre avec le Christ, mais parfois il en faut. Vous savez, il y a un évangile très curieux où Jésus guérit un aveugle. Et puis alors, donc, il s'approche de l'aveugle, et puis il dit, qu'est-ce que tu vois, l'aveugle ? Et l'aveugle dit, je vois des gens, mais ils sont comme des arbres. Et alors ensuite, continue la conversation avec le Christ, et puis ensuite, il voit vraiment. Et ça, ça souligne la temporalité, c'est-à-dire le fait que les conversions, elles sont par étapes. Et parfois, rencontrer le Christ, se laisser toucher par lui, se laisser guérir par lui, se laisser sauver par lui, eh bien, ça peut prendre quelques années. Alors, il y en a où c'est rapide, il y en a où c'est tout de suite, vous voyez. Il y en a où c'est dès l'enfance, puis il y en a, ça attend. Quoi, voilà. Il y en a un ou une qui écrit « Mon parcours religieux a bouleversé tel un séisme ma vie, mon être, mon cœur. » J'ai découvert le Christ, cette force d'amour sur laquelle je peux m'appuyer pour mieux vaincre mes tentations, éloigner mes peurs et devenir moi-même. Ça, j'aime beaucoup cette expression, devenir moi-même, c'est-à-dire devenir ce que je dois être dans le regard de Dieu. Au fond, accepter ma vocation profonde, accepter ce que je suis aux yeux de Dieu, la merveille que je suis aux yeux de Dieu, eh bien, ça, je le découvre dans le Christ, dans la lumière du Saint-Esprit. Ben, imaginez-vous que vous lisez 90 lettres comme ça. Alors, il y a tous les styles, hein, il y a toutes les expressions, mais c'est extrêmement revigorant pour la foi. Parce que quand on était à la cathédrale, avec les 90 confirmants, ben, il y a leur parrain marraine, il y a leur famille. Parfois, il y a les époux, les épouses, il y a les enfants, parfois des amis, des accompagnateurs du catéchuménat, donc ça remplit la cathédrale. Tout le monde en profite, hein, de cette nouvelle dynamique. C'est pour ça, je crois, que ces confirmants, ces nouveaux baptisés, ces nouveaux confirmés, c'est les premiers apôtres, hein, les premiers témoins de notre temps. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont là.
Alors c'était justement ce que vous avez dit dans votre homélie, hein, puisqu'ils sont maintenant envoyés en mission, hein, en mission d'évangéliser, de donner cette bonne nouvelle du Christ. On pourrait dire que ces lettres, finalement, c'est un petit exercice déjà de témoignage, un premier témoignage, hein, finalement. Et finalement, ce témoignage qu'ils sont amenés à donner aujourd'hui, c'est aussi un petit peu ce qu'ils ont écrit dans ces lettres, finalement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont capables de dire au travail pourquoi ils ont été confirmés, baptisés. Je pense qu'il y en a vraiment qui sont dans leur famille déjà, et puis dans leur milieu professionnel, sans faire du prosélytisme à tout craint. Ils peuvent témoigner tout simplement de ce qui a illuminé leur vie. Et je pense, je le dis pour les auditeurs de Radio Ecclesia, que nous sommes appelés à être témoin dans notre milieu de vie, hein, tout simplement, dans notre réseau, dans notre milieu de proximité, qu'on ose dire ce qui fait notre joie, ce qui nous apaise, ce qui nous fait nous lever le matin. Hein, quand ces personnes disent « Oui, aujourd'hui, je ne me vois plus me passer un seul instant de lui, j'ai une soif immense d'apprendre de la Bible et de vivre selon sa volonté », voilà, c'est... Vous savez, toutes ces personnes, elles ont toujours rencontré des témoins. Il y a un moment dans leurs lettres où elles disent « j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Dieu, soit qui m'a proposé le baptême, soit qui m'a tendu une Bible, soit qui tout simplement est venu me visiter à un moment où j'allais pas très bien ». Et donc, c'est aussi ça le témoignage de la foi. Hein. C'est se rendre disponible pour que le Christ nous utilise, si je puis dire entre guillemets, hein, pour proclamer son évangile et puis toucher les cœurs.
Alors, c'est vrai que ce qui est étonnant aussi, hein, c'est que c'est des confirmants adultes. Donc, c'est des personnes qui, finalement, ne demandent la confirmation que maintenant. Certains ont été pourtant baptisés petits. En quoi le sacrement de la confirmation, justement, c'est important dans la vie du chrétien, dans ce parcours, sachant qu'au début, les premiers chrétiens, ils recevaient tous les sacrements en même temps. Pourquoi est-ce que, voilà, maintenant, c'est un petit peu échelonné? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous disiez sur l'évolution ici de la foi et être en pleine conscience aussi pour faire cette démarche?
Je crois que la grâce de la confirmation... Alors, on a reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême, hein, qui nous a fait fils et filles bien-aimés du Père. Donc, on reçoit la filiation, la grâce d'une vraie renaissance dans le Christ. Donc, on a reçu l'Esprit Saint, mais à la confirmation, c'est l'occasion aussi de vivre cet accueil de l'Esprit Saint en plénitude. Et puis pour les adultes, d'être renouvelés dans la vie, dans l'esprit. On a lu il n'y a pas très longtemps dans les Actes des Apôtres, les apôtres sont à Éphèse et puis ils rencontrent des gens, si vous voulez, qui disent « on a reçu le baptême de Jean-Baptiste, hein, on ne savait pas qu'il y avait un Esprit Saint ». Ils reçoivent le baptême dans l'esprit, hein, et ça nous montre combien l'Esprit Saint est décisif pour notre vie chrétienne, parce que c'est une vie dans l'esprit. On se laisse conduire par l'Esprit Saint, on se laisse emportée par l'Esprit-Saint. Alors on peut vivre baptisé, mais sans réaliser combien l'Esprit-Saint est l'ami intérieur qui nous montre comment vivre au jour le jour de l'Évangile. Et vous savez, je fais un petit peu un parallèle qui fait partie des comparaisons traditionnelles, hein, c'est que vous pouvez avancer en bateau dans la mer en cabotant avec vos petites rames et en restant le long de la côte pour au cas où il y aurait une tempête. Mais pour faire du bateau, vous pouvez aussi monter le mât, hisser la voile, laisser le vent vous emporter au large, et là vous allez beaucoup plus loin. C'est ce que fait l'Esprit-Saint en nous.
Pour terminer cet entretien, donc nous venons de vivre du 6 au 19 mai un moment fort aussi dans notre diocèse avec le passage de la relique du cœur du curé d'Ars, hein, qui a traversé le diocèse, qui était dans 18 paroisses différentes, avec donc des temps de prière, des veillées, des messes, des soirées. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui a été vécu, comment ça a été accueilli, qu'est-ce qui a été vécu dans le Gard ?
Je pense que la grâce vraiment forte du curé d'Ars a été d'être apôtre de la miséricorde de Dieu. Alors au confessionnal, mais pas seulement, dans tout son être, dans tout son ministère de prêtre. Et le cœur, c'est justement le lieu, hein, le lieu où on accueille cette miséricorde, le lieu des grandes décisions. Donc la pérégrination des reliques, c'est vraiment se repencher, hein, sur ce mystère par lequel le curé d'Ars a offert toute sa vie. Et puis s'est laissé transformer de l'intérieur. C'est un saint qui a accepté de se convertir. Ça, c'est beau. Un prêtre qui a accepté de se convertir parce qu'il n'est pas arrivé à Ars avec ces idées-là en tête. Mais en s'occupant des filles de la rue qu'il a regroupées dans l'Institut de la Providence, en commençant à confesser, en voyant les gens arriver, il a découvert combien la miséricorde de Dieu était grande, combien l'amour de Dieu était grand. Et ça, on a besoin de se le redire. Je crois que c'est la grâce aussi qui est passée dans notre diocèse. Et puis c'était un pasteur qui était proche de ses paroissiens. Et alors là, ça invite aussi à prier pour les prêtres, et puis à prier pour demander des vocations pour notre diocèse. On a besoin de s'incurer dans notre diocèse comme dans toute l'Église.
Merci Monseigneur.
Merci à vous Laurence. Et merci aux auditeurs.